Un podcast France Culture.
C'est la première fois en France qu'on a enfermé des gens, c'est-à-dire qu'on est dans une émission d'enfermement. Il faut savoir que l'enfermement est quelque chose psychologiquement qui est intéressante comme expérience. L'enfermement, ça procure d'abord une accélération de la façon de vivre les choses. On les vit d'une façon plus forte. Quand on tombe amoureux, on tombe très amoureux. Quand on déteste quelqu'un, c'est l'enfer. L'intensité, elle est même pas dédoublée, elle est triplée, quadruplée.
Comme dans une colonie de vacances. On est tellement coupé du monde, on est dans notre cocon, donc forcément, ce qu'on ressent, ce qu'on vit au quotidien est décuplé.
Troisième épisode, c'est la France qui nous regarde.
Ouh, oh si, elle est bonne. C'est pas bien sérieux.
C'est un printemps qui est assez chaud.
L'écrivain et journaliste David Dufresne.
À Saint-Denis, puisque c'est filmé à Saint-Denis, il y a de la lumière, il y a du soleil et il y a cette vague piscine hors sol dans laquelle barbotent les lofters. Donc c'est effectivement un festival de bikini, de deux pièces, d'une pièce, de caleçons longs, etc. Ils sont tous dans un jeu de séduction. C'est pour ça qu'ils ont été choisis. Il y a ce côté très, très sexué.
Mis à part au JT sur l'ouverture des plages au mois de juin, je pense qu'il y avait rarement des gens en maillot de bain.
Alexia Laroche-Joubert, productrice.
C'était une prise de la Bastille, hein. C'était une prise de l'objet cathodique. Et en plus de cette prise, c'était un succès.
Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est que vous n'habitez pas en France. Ce programme, c'est donc Love Story.
C'est passionnant. C'est un peu dingue.
Louis-Alexis de Gemini, alors directeur des programmes et du divertissement chez M6.
Et puis, moi, je rentre le soir chez moi à 1h du matin et j'allume ma télé et je les ai en live sur TPS. Je vais vivre comme ça pendant, comme toute l'équipe. Hein. On va vivre avec eux. Le lendemain, les audiences, 9h, les audiences du prime time. De mémoire, on a fait à peu près 4 millions de spectateurs. Donc, c'était bien, mais c'était pas un raz-de-marée. Et puis, le samedi, déjà des événements qui se produisent, et puis l'émission en tant que telle devient un phénomène de société très vite.
C'est la petite mise.
Comment parler du love sans parler de ce samedi 28 avril, qui en tout cas a peut-être accéléré les choses.
On va dire que l'autre jour, quand je suis passé dans le confessionnal, j'ai dit que j'appréciais tout le monde, et pas quelqu'un, sauf qu'il y avait une fille que je trouvais trop extravagante. Il s'avère que ce soir, j'étais dans la piscine avec cette jeune fille un peu trop extravagante à mon goût. Et que, voilà quoi, on s'est compris.
Il y a quand même une séquence qui nous a mis propulsés dans la stratosphère du buzz et de l'audience. C'est la fameuse scène de la piscine, qui est une forme d'alignement des planètes.
La petite piscine, ouais, lieu de tous les ébats. La petite piscine, effectivement, voilà.
Pour moi, elle est quand même toujours trop extravagante, mais je pense que ça nous arrive à tous de temps en temps de prendre un peu de plaisir, non ?
Je suis appelé dans l'après-midi pour me dire qu'il y a eu des câlins dans la piscine. Donc effectivement, il y a eu des câlins entre Jean-Edouard et Loana. Mais l'enjeu, c'est qu'on ne les mette pas à l'image dans l'émission qui va être diffusée en direct à 18h. L'émission est diffusée en direct, mais le montage est fait progressivement toute la nuit jusqu'au début de l'après-midi.
Probablement que mon manque de dextérité, de compréhension de ce qu'était Internet a fait que les images ont fuité au-delà de ce qu'elles auraient dû fuiter si j'avais compris qu'il y avait un canal qui s'appelait Internet, que les images étaient en train de partir tout de suite, alors que moi, j'étais en train de regarder fascinée. Ça m'a échappé.
Et l'enjeu, c'est jusqu'où on monte ce qui se passe au-dessus de l'eau, c'est-à-dire les bisous et cette situation qui, en même temps, est très nature, très simple, très jolie, moi, je trouve.
C'est juste un baiser hein, qu'on va voir, hein. C'est quand même pas grand-chose. C'est même, on pourrait dire, la seule image un peu belle du loft. Il me semble que c'est au clair-obscur, il y a un petit effort sur les lumières, quoi, on va dire. Il me semble, hein, mais peut-être que je fantasme.
Après, l'enjeu numéro 2, c'est que eux, leur image soit pas ternie au bout de 3 jours ou 2 jours. Parce qu'encore une fois, on a énormément travaillé à ce que ça se passe bien pour eux. On était responsables de leur image.
Je pense qu'ils avaient un peu picolé, mais surtout, les caméras Ils s'en foutaient complètement des caméras.
La productrice, Angela Lorente.
Donc ça, ça a été une folie en France. Donc ça fait tous les couvertures, tous les infos des radios. Je rappelle un jour, il y a eu... je rentrais dans un taxi, j'allais au loft et il y avait eu des tirs de roquettes ou des bombardements de Palestine et Israël, ce qui était dramatique, et ce qui est dramatique comme à chaque fois. Et donc, avant ça, il y avait Luana. On parlait de Luana d'abord. Luana, c'était Luana, quoi. Luana et Jean Edouard dans la piscine. Et là, je me suis dit, là, on est en train de passer de l'autre côté. Moi-même, hein, qui était productrice de l'émission, je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Et on était les seuls pays où, au bout des 48 heures, il y a une affaire comme ça. La France, on est toujours, c'est l'exception française, on en parle souvent. Les seuls pays qu'au bout des 48 heures, il y a une affaire comme ça, c'est la France.
C'est le sujet de conversation numéro 1, la polémique de la semaine. M6 a donc réussi son pari, faire parler, puisque de toute façon, ça fait de la pub au programme.
Mais je pense que l'histoire de la piscine, ça a surtout été un basculement pour Loana, en fait. On lui parle de ça encore 20 ans après, quoi.
Kenza Brega, ancienne candidate et aujourd'hui journaliste.
Sauf que nous, on ne savait pas que la scène avait été filmée et diffusée. C'est ça qui a été terrible, pour elle et pour nous. Ça veut dire que nous, on pensait que tout ce qui était rapport intime n'était pas diffusé à l'extérieur. Voilà. Et c'est comme ça que la prod aussi a été dépassée. Parce que je crois que l'extrait en fait, est passé dans la chaîne 24 heures sur 24 et qu'après, ils n'ont pas pu faire marche arrière. Ils ont été obligés d'assumer. Et c'est ça qui a fait scandale aussi. On savait que Jean-Edouard et Loana, il se passait quelque chose entre eux, mais en fait, on n'a pas assisté comme des voyeurs à la scène. On était dans le salon, eux, ils étaient dans la piscine et il s'est passé ce qui s'est passé. Vous voyez, ça n'a rien changé. C'est juste qu'on a su que le lendemain, Jean-Edouard ne calculait plus Loana. Donc, elle, pour elle, c'était une tristesse absolue. Et pour Jean-Edouard, c'était un flirt comme un autre. Voilà. Donc, ça a créé de la tristesse. Ça a créé une histoire parmi d'autres histoires à l'intérieur, en interne.
C'est dans le love qu'on s'est rencontrés pour vivre ensemble une histoire à jamais gravée.
Et moi, j'avoue que j'ai assez vite des sentiments pour Christophe.
Julie Merci, aujourd'hui directrice commerciale d'un groupe hôtelier.
La chance qu'on a eue avec le recul, c'est que la production était focalisée sur Jean-Edouard et Loana, donc notre amour a été assez préservé. Mais on se cache pas forcément. À un moment donné, je demande d'aller au confessionnal pour voir les images qui sont diffusées, parce que je suis inquiète. Je suis inquiète de ce que mes parents pourraient voir. Et on essaie d'être discret. On fabrique une petite cabane sous une table pour être plutôt tranquille. Donc on essaie un peu d'être vigilant, d'être sous la couette, de s'embrasser. Mais c'est compliqué d'être vigilant H24. On a aussi envie de pas calculer tous ces faits et gestes.
Il y avait quelque chose, c'est terrible à dire, mais d'addictif, évidemment.
David Dufresne.
On savait très bien que c'était très mauvais, il n'y avait pas de doute là-dessus. Mais pourquoi on prenait plaisir à ce mauvais plaisir? Ça, c'était punk, ça, c'était punk, ça, c'était rigolo. Ça, c'était... Et donc, je fais la chronique pour Libé, et là, un jour, j'ai eu un truc horrible, mais vraiment horrible, je n'ai jamais raconté. C'est Serge Julie qui est venu me voir en me disant ah, « c'est super, c'est moderne ». Bon, là, je dis « bon, ok, super, ok, Serge ». Ouais, et puis la régie pub, ils trouvent ça génial, hein, parce que tu redonnes un coup de jeune à Libé. Il se passe un truc étrange, c'est qu'au sein de Libération, il y a des gens qui comprennent pas ce que je suis en train de foutre, mais on gâche du papier à raconter cette merde, mais enfin, des voyons, mais Libé tout de suite tout ça. Et puis d'autres qui disaient, non, il a raison, c'est là que ça se passe, il faut raconter ça, il faut y être comme sur un front, finalement, c'était le front télévisuel, il était là, il n'était pas ailleurs, quoi. C'était à ce moment-là, seul comptait Loana, ça peut paraître dingue. Tout le pays était sous hypnose. Il y avait un truc hypnotique dans le loft. Tout le monde ne s'intéressait qu'à ça à un moment donné. C'est du divertissement. C'est-à-dire que c'est fait pour ça. C'est pour divertir. C'est pour nous mettre sur des sujets divers et non pas sur des vrais sujets. Tout le monde se déchirait là-dessus. Mais c'est complètement fou quand on y pense. Pour vivre ça sous hypnose, il fallait être dans un état second. C'était mon cas. Mais j'ai adoré ça.
J'ai entendu certains de mes enfants dire juxtaposer, voilà, des mots que moi, je ne sais pas juxtaposer dans mes phrases. Par exemple, c'est nul et j'adore.
Françoise de Panafieux, à l'époque, élue RPR.
Et finalement, qu'est-ce qu'il disait, ces téléspectateurs et ces lofters? Il nous disait, nous, que vous ne connaissiez pas il y a un quart d'heure, que vous découvrez sur vos écrans de télé, on va devenir des vedettes plus que vous.
Moi, j'en ai plein le dos. Il faudrait quand même que les Français s'attardent de temps à autre sur leurs contradictions.
Jean-Luc Mélenchon est à l'époque membre du gouvernement de Lionel Jospin.
On se tourne vers moi en tant que ministre de l'Éducation nationale, chargé de l'enseignement professionnel. On me demande qu'il n'y ait pas de violence, que les jeunes se respectent. On y met des millions. On est en train d'organiser une campagne sur le respect. Et ensuite, on passe son temps, ses soirées, sans aucune espèce de sens de responsabilité morale, à regarder quelque chose qui, dans lequel il n'y a rien à voir, sinon des gens qui s'entre-dévorent, parce qu'il s'agit bien de ça. C'est à longueur de une, tous les jours, comme si c'était le grand événement du siècle. Ne venez pas pleurer après si les gens ne se respectent pas, si vous avez du mal à les faire travailler, si vous avez du mal à les faire se comporter comme des êtres humains dignes et libres. Et les gens, au fond, ont la télé qu'ils méritent. S'ils ne résistent pas, ils en mangeront encore plus du comme ça.
On n'était pas préparé à tout ça, donc on était très...
Alexia Laroche-Joubert.
On y allait un peu la fleur au fusil. Et d'ailleurs, quand on a reçu ces sauts de merde, parce que c'est, on peut parler de ça, moi, je trouvais qu'ils étaient complètement à côté de la plaque, tous ces intellos, là. Je trouvais qu'ils comprenaient rien de ce qui se passait, ils comprenaient rien à la jeunesse, ils comprenaient rien au mouvement sociologique de l'arrivée des webcams, de la montée d'Internet. Enfin bon, ils étaient complètement has-been pour moi, tous ces gens-là. Je crois que c'était Ségolène Royal qui m'a traité de proxénète. Enfin quand même, c'est n'importe quoi, ils étaient complètement à côté de la plaque. Et puis c'est même honteux. Il y avait des gens dans les dîners, moi je me rappelle que mes parents se sont fait insulter. Mon père était un ancien publicitaire, donc extrêmement moderne. Il adorait tous ces trucs-là. Et ma mère était grand reporter de guerre. Et je pense qu'il y avait un point commun entre elle et moi, c'est-à-dire la curiosité de l'autre. Au final, c'est toujours quand même l'intime et ce qu'on raconte des gens. On était en train de pervertir, alors que pour moi, on asseyait juste différentes générations devant la télé, et ça enclenchait des discussions familiales. C'est ça surtout qui était très nouveau.
Le monde du cinéma était très partagé par rapport à ça, et notamment le monde du documentaire qui disait « mais comment se fait-il qu'un journal comme Libération passe autant de temps à parler d'un truc ?» Et de l'autre côté, vous aviez les Cahiers du cinéma qui avaient mis le Loft parmi les 10 meilleurs films de l'année, quoi. Et moi, j'étais beaucoup plus sur la deuxième position, évidemment.
Le Monde, 11 mai 2001, tribune de Patrick Lelay, alors PDG de TF1, intitulé « Peut-on tout montrer à la télévision ?»
La transgression par M6 d'une règle observée jusqu'à présent par tous les diffuseurs privés ou publics de ne pas toucher à la télé poubelle est une très forte interpellation. Aux responsables d'associations familiales de décider si Love Story et ses sous-produits pornographiques mettent en cause la protection de l'enfance. Au CSA de dire si une chaîne généraliste en clair peut diffuser à une heure où une majorité d'enfants regardent la télévision un programme incitant des jeunes gens à former un couple temporaire par appât du gain.
Ce qui va changer, c'est la montée du CSA. C'est la suite de probablement de pression de TF1. Probablement la tribune en l'occurrence dans Le Monde, Patrick Lelay.
Le premier week-end, il y a une couverture du Monde avec des fils de fer barbelés. Et le programme va avoir 4 couvertures du Monde de mémoire à ce moment-là.
Oui, Alexis, de Gemini.
Et avec des éditos enflammés de nos concurrents, de sociologues, d'hommes politiques. Il y a aussi des gens qui disent qu'ils adorent Love Story, aussi des hommes et des femmes politiques d'ailleurs. En tout cas, le tremblement de terre est tel qu'évidemment, on est appelé à se présenter devant le CSA avec l'équipe d'Anne Desmolets, l'équipe d'M6. Enfin, il y a un risque qu'il puisse y avoir même un arrêt du programme, voire de la chaîne. Donc, on a pris une décision en accord avec le CSA de créer la salle CSA, donc un lieu dans lequel ils pouvaient aller sans être filmés pour les sortir du filmage permanent. Ce filmage 24 heures sur 24 étant vu par certains comme étant un élément de pression psychologique sur les candidats de l'émission. On en a pris acte et donc on a validé complètement l'idée qu'ils puissent se reposer hors des caméras.
Mais à l'époque, tout ça, vous n'y pensez pas. Vous vous dites pas, bah oui, je suis un rat de laboratoire. Il y a Le Monde dehors qui fait un gros papier, qui fait scandale. On ne connaissait pas les codes de cette émission. On ne connaissait pas les codes de la télé-réalité.
Kenza Brega.
Bah, moi, quand j'ai été nominée, forcément, j'ai été déçue. Voilà, j'avais peur de sortir à l'extérieur, en fait. C'est comme si j'étais bien dans mon cocon. Et comme on n'avait aucune information de l'extérieur, c'est vrai qu'on ne savait pas tout le scandale qu'avait créé cette émission. Voilà, j'avais peur de sortir parce que je savais qu'à l'extérieur, il se passait quelque chose de pas normal, hein, qui allait me dépasser.